accent d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Good afternoon, this is Sky News, Brexit free, it's 5 o'clock. The top stories.
Le suspense dure en Angleterre. Le texte du divorce avec l'Europe sera-t-il approuvé demain par les députés britanniques? Si Westminster dit oui, un Brexit dès le 31 octobre serait possible. Si par contre les députés rejettent une nouvelle fois l'accord obtenu au forceps à Bruxelles, alors ce bel agenda volera en éclats et l'ombre d'un no deal pourrait revenir. Et dans ce contexte pour le moins électrique, une chaîne de télévision anglaise fait un pari risqué, celui de parler de tout sauf du Brexit. Cette nouvelle chaîne d'information 100% Brexit Free a été lancée il y a 2 jours, Marie Billon.
À très précisément 15 jours, 6 heures, 59 minutes et 41 secondes du Brexit, une nouvelle chaîne de télévision est née, Sky News Brexit Free, Sky News sans Brexit. Et comment sait-on à quelle heure elle a poussé son premier cri, ou plutôt son premier générique? Parce que sa grande sœur, Sky News, la classique, a un décompte précis du temps qu'il reste jusqu'au Brexit, à la seconde près. Autant dire qu'une chaîne sans Brexit, petite sœur d'une chaîne qui inflige sans répit ce compte à rebours à ses téléspectateurs, cela fait doucement sur les réseaux sociaux. Même le présentateur a annoncé sa chaîne consoeur avec une touche d'ironie.
Je ne peux y croire, mais si vous en avez marre du Brexit, Sky News vient de lancer une chaîne sans Brexit. Vous pourrez suivre toutes les informations qui n'ont pas trait au Brexit du lundi au vendredi de 17h à 22h. C'est la chaîne 523, si vous en avez assez du Brexit.
You've had enough of Brexit.
Une pop-up channel, comme on dit en anglais, qui n'est donc pas vouée à durer. La chaîne est censée fermer boutique dès le 31 octobre, date de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais alors, pourquoi ? Coup de pub de Sky News ? Sûrement. La chaîne est accessible qu'à ses abonnés. Mais l'initiative s'appuie aussi sur une étude effectuée plus tôt cette année, selon laquelle un tiers des Britanniques évitent de regarder les informations parce que le Brexit les ennuie, les énerve ou les stresse. Et certains londoniens confirment.
Je ne lis plus que les gros titres et même pas tous les jours, juste pour savoir un peu ce qu'il se passe. Bien sûr, ça me fait du mal, comme à tout le monde. L'ignorance est une bénédiction.
Moi, je veux regarder une chaîne qui ne parle que de Brexit. Quand je rentre à la maison, j'allume les infos. Tout ce qui se passe m'intéresse beaucoup. C'est tellement important pour mon travail, pour l'économie. Chaque jour, je veux savoir ce qu'il se passe. Moi aussi, ça me rend anxieux, mais c'est d'autant plus important de se tenir bien informé.
C'est un avis assez partagé. Sur Twitter, le hashtag Autruche est souvent attaché aux commentaires sur cette chaîne 100% sans Brexit. Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories.
Parmi les premiers concernés par cet accord de sortie de l'Union européenne, les Irlandais. L'île divisée entre l'Irlande du Nord, britannique, et la République d'Irlande, toujours membre de l'Union européenne, est au cœur du dilemme. Pour des raisons économiques, tant les relations commerciales et financières entre Londres et Dublin sont liées. Pour des raisons politiques aussi, puisqu'une sortie sans accord verrait la frontière entre les deux pays se rétablir et menacer la paix signée il y a 20 ans. Alors en attendant le vote des parlementaires à Londres, les Irlandais vont vivre quelques heures encore dans l'angoisse. La pêche est l'un des secteurs clés de leur agriculture. Comment va-t-elle s'organiser avec une mer découpée en frontières? Notre correspondante à Dublin, Emeline Vin, est partie à la rencontre de ces pêcheurs irlandais.
L'industrie de la pêche en Irlande représente 6% de l'emploi. Un secteur qui repose en grande partie sur la liberté de mouvement en mer.
On voit la ligne sur la carte. Vous avez cette zone bleue, ce sont les eaux européennes après le Brexit. La zone rouge va bientôt appartenir uniquement au Royaume-Uni.
John Lynch représente les pêcheurs du sud et de l'est de l'Irlande. Depuis 3 ans, il accumule les cartes et les statistiques sur les risques d'un Brexit sans accord. Dans ce scénario, les eaux britanniques deviendraient inaccessibles aux pêcheurs européens.
Pour le maquereau, 60% des revenus viennent de la zone autour des Shetlands, au large de l'Écosse. Le maquereau pond au sud-est de l'Irlande, puis il migre vers le nord, autour des îles Shetlands et vers la Norvège pour se nourrir durant l'hiver. Le poisson n'est pas de bonne qualité après la pondaison. Ils sont meilleurs au moment où ils sont dans le nord. Les navires devront les attraper dans les eaux irlandaises désormais. Ce sera les mêmes maquereaux, mais pas la même qualité.
Pas la même qualité et donc pas le même prix de revient. Cette nécessité d'accéder aux eaux britanniques vaut pour les maquereaux et pour tous les autres produits de la mer. Dans la banlieue nord de Dublin, Howth est l'un des principaux ports de pêche d'Irlande. Sur son navire, la Lass, Mark Francis revient à terre après 3 jours passés à pêcher la langoustine dans les eaux britanniques. Ce sont de gros crustacés d'un rose appétissant, délicatement rangés, tête bêche, dans des caissettes. Si Londres lui interdit l'accès à ses eaux, ce n'est pas une perte de qualité que risque Mark Francis, mais carrément une perte de travail puisqu'il pêche.
Le long des côtes irlandaises et dans les eaux anglaises, à 60% en Angleterre. C'est très important pour notre industrie. S'ils ferment leurs eaux, on n'aura nulle part où pêcher. Ce sera la fin de notre industrie. Ça fait peur. Si je ne peux pas pêcher là où j'ai toujours pêché, où est-ce que je vais pêcher? Je ferais tout aussi bien de fermer boutique.
Dans l'esprit des pêcheurs, des images qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux à l'été 2018. Des scènes de bataille navale entre pêcheurs français et britanniques. Au cœur du conflit, le partage de la baie de Seine pour pêcher la coquille Saint-Jacques. Ce genre de scène d'affrontement pourrait bien se multiplier avec un Brexit sans accord. C'est la conviction du président de l'organisation des pêcheurs de Killybegs, Sean O'Donoghue.
Ça fait des siècles qu'on pêche chez les Britanniques et qu'ils pêchent chez nous. Les relations seront extrêmement tendues. La Royal Navy et la marine irlandaise vont se mettre à patrouiller le long de cette frontière imaginaire. Inévitablement, il y aura des conflits en mer d'Irlande, dans la Manche, en mer du Nord. Les pêcheurs ne vont pas admettre qu'on leur refuse l'accès à leur terrain de pêche depuis des générations. Ils ne vont pas admettre que ça se passe comme ça, du jour au lendemain.
La marine irlandaise et l'armée de l'air se sont déclarées prêtes à intervenir en mer pour protéger leurs frontières. Un désordre annoncé donc en mer et aussi à terre, selon le représentant des pêcheurs Sean O'Donoghue. Sans accord, il estime que 3 à 4 000 emplois seraient détruits en Irlande.
Sont les métiers en mer et à terre, comme le traitement du poisson, le transport, la fabrication des filets. Quand vous regardez les zones côtières, il n'y a rien d'autre que la pêche. Ces gens, il faudra qu'ils émigrent. En peu de temps, les restaurants, les hôtels, les écoles, toutes les infrastructures vont fermer.
Avec d'autres représentants européens de pêcheurs, il a réussi à obtenir une garantie de la part de l'Europe. Que la question des eaux territoriales soit liée à celle des échanges commerciaux, 70% du poisson britannique exporté part vers l'UE. Un excellent moyen de pression, selon John Lynch, président des pêcheurs de l'Est.
La plupart des poissons passent de Douvres à Calais. Je ne vois pas les Français laisser entrer du poisson venu d'ailleurs, alors qu'eux n'ont pas le droit de pêcher en dehors de leurs eaux territoriales. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Tout le monde a besoin de se déplacer et de vendre ses produits. C'est la base de l'économie.
Sur les bateaux de pêche aussi, l'inquiétude est palpable, alors que ces dernières années, les paramètres étaient au beau fixe.
Ces dernières années, les choses sont bien allées. Le prix de l'essence a diminué, nos prises ont été stables parce que la gestion des stocks fonctionne bien. Tout ça, ça pourrait changer du tout au tout avec un hard Brexit.
Sur son navire au rouge et blanc, Mark Francis décharge ses dernières cagettes de langoustine.
Nous, de toute façon, on continue notre boulot, car c'est ce que font les pêcheurs. Comme je vous l'ai dit, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais rien fait d'autre. Vous devez continuer à avancer, c'est l'attitude des pêcheurs. Quoi qu'il arrive, tu continues.
De toute façon, dit ce pêcheur en souriant, il n'y aura pas le choix pour nous. Contrairement aux Français, on ne sait pas faire grève.
Le Brexit vu depuis la Suisse. A priori, le pays n'est pas le premier impacté par la sortie de Londres de l'Union européenne. Sauf que le Royaume-Uni s'est beaucoup intéressé au modèle helvète ces derniers mois. Un pied en dehors de l'Union européenne, un pied dans son économie. Certains à Londres aimeraient beaucoup s'inspirer de ce qui se fait en Suisse. À Genève, Jérémy Lange.
Les Suisses ont refusé d'adhérer à l'Union européenne, mais ce sont paradoxalement eux qui profitent le plus du marché intérieur européen. Selon une étude d'une fondation allemande, ce marché rapporte en moyenne 840 euros supplémentaires par an pour chaque Européen. Pour un Suisse, c'est près de 3000 euros, presque 3 fois plus qu'en France ou en Allemagne. La raison, ce sont les bilatérales, ces accords qui permettent à la Suisse de commercer avec l'UE à faible coût. Il y en a plus d'une centaine en tout. Si on rajoute le fait que l'économie suisse est l'une des plus prospères au monde et que le taux de chômage y est à peine de plus de 2%, on comprend pourquoi Londres a dépêché du personnel supplémentaire dans son ambassade en Suisse, juste après le référendum sur le Brexit. Sauf que Bruxelles ne veut surtout surtout pas que le Royaume-Uni réédite l'exemple suisse. L'Union européenne reproche à Berne de profiter des avantages du marché européen sans trop mettre la main à la poche. Les négociations pour un accord cadre plus global entre la Suisse et l'UE piétinent depuis maintenant plusieurs années et la Suisse s'inquiète justement d'un durcissement de la position européenne à cause du Brexit. Bruxelles ne veut pas donner l'impression que sortir de l'Union européenne est plus avantageux que d'y rester. La Suisse et le Royaume-Uni l'ont bien compris. Les deux pays ont déjà signé un accord pour maintenir leurs relations économiques après le Brexit.
Nouvelle journée de manifestation à Barcelone, la cinquième depuis lundi et la condamnation de 9 leaders séparatistes à des peines allant jusqu'à 13 ans de prison. Des émeutes secouent la capitale de la Catalogne. Avec chaque soir, des milliers de militants indépendantistes qui affrontent la police. Mais le point d'orgue de ces manifestations, c'est aujourd'hui avec une grève générale et des cortèges qui convergent vers Barcelone. Bonjour Virginie Le Petit.
Bonjour Léa Lisa.
Vous êtes journaliste au Courrier International. Pour mieux comprendre la colère et l'idéologie de ces séparatistes, vous avez remis en ligne dans votre édition numérique de cette semaine un article d'un site proche des indépendantistes, elnational.cat. Cet article revient avec des termes très violents sur la perception qu'ont les séparatistes des autorités et de la justice espagnole.
Oui, dans cet éditorial, on parle de châtiment disproportionné, on parle d'une justice qui n'est pas impartiale, qui est celle de l'ennemi, qui est un droit divin, jugé parti, et dont le seul but est de détruire l'autre. En fait, l'éditorialiste Jordi Calvez résume cet exercice à un exercice de répression politique, drapé dans le cynisme légaliste des ennemis de la Catalogne, à l'encontre de ses représentants politiques. C'est des charges fictives, et on prétend faire juger des politiques indépendantistes catalans par des juges espagnolistes. Donc c'est réellement des termes très durs et les comparaisons qui suivent cet éditorial sont vraiment très très violentes. On compare ça à des viols ou enfin à une justice extrêmement dévoyée.
Dans ce numéro de Courrier International, vous revenez aussi sur les résultats des élections municipales en Hongrie. Un résultat que l'on peut qualifier de premier revers pour Viktor Orban.
Oui, un premier revers, car ces élections du 13 octobre ont donné la victoire au parti uni de l'opposition dans plusieurs grandes villes, auparavant dirigées par la Fidesz, et notamment dans la capitale, Budapest. Ce résultat met un terme à une série de 8 scrutins consécutifs dont le parti de Viktor Orban est toujours sorti vainqueur. Mais cette fois-ci, il a péché par orgueil. Orban et ses soutiens n'ont pas pris au sérieux leurs concurrents. Ils se sont perdus dans leur discours éculé sur les migrants et Bruxelles, tout en ridiculisant leurs contempteurs accusés d'incompétence. Et quand la Fidesz s'est rendu compte que ça ne prenait pas, il était déjà trop tard, analyse le site d'information Index.
Est-ce que cela entame réellement la suprématie du parti de Viktor Orban ?
Non, en fait, cette victoire est plutôt symbolique. La Fidesz demeure le premier parti de Hongrie avec une puissante assise provinciale et prétendre le contraire serait dangereux, mais en garde le site d'opposition Azonali. Ceux qui parlent d'énormes victoires n'ont même pas idée de la faiblesse budgétaire et de l'infime marge de manœuvre restant aux mairies dans ce système brutalement centralisé par l'exécutif. Dire que l'on vient d'assister à une percée de l'opposition revient à se bercer de dangereuses illusions, écrit-il.
Alors, autre élection, celle qui a eu lieu au Kosovo le 6 octobre dernier, avec un portrait d'Albin Kurti, fondateur du mouvement Autodétermination et très probable prochain Premier ministre du pays.
Oui, oui. Et ce portrait nous vient de la presse croate, plus précisément du quotidien Vesernji List. Alors, l'auteur a rencontré Albin Kurti pour la première fois en 1999, juste après l'intervention de l'OTAN et le retrait de la police et de l'armée serbe du Kosovo. Et déjà, à 24 ans, Albin Kurti promettait « Si je ne suis pas tué ou mort, je serai Premier ministre un jour ».
Et voilà que 20 ans plus tard, c'est chose faite.
Oui, c'est chose faite, au terme d'une trajectoire quand même mouvementée. Kurti est une étoile de la résistance kosovare, c'est ce que rappelle l'article. Son engagement non violent contre le régime du président serbe Slobodan Milosevic lui a valu de devenir un prisonnier politique. Il a été libéré en 2001 et depuis, il n'a eu de cesse de dénoncer la tutelle exercée sur le Kosovo par l'ONU, puis la corruption des autorités kosovares. C'est un radical, un enfant terrible. Il s'oppose farouchement au dialogue entre Belgrade et Pristina et réclame le boycott des produits serbes. Quant à son heure de gloire la plus récente, elle remonte à 2018, quand les députés d'autodétermination, opposés à la ratification de l'accord de délimitation de la frontière avec le Monténégro, ont jeté du gaz lacrymogène dans l'enceinte du Parlement. L'image des députés au travail avec des masques à gaz a fait le tour du monde, rappelle le journal.
Et puis enfin, l'anniversaire des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Il approche et à ce titre, vous publiez chaque semaine un article sur ce qu'il reste de l'esprit de 1989. Dans ce numéro, vous avez retenu un sujet de Die Zeit qui concerne l'immobilier dans les Länder de l'Est.
Oui, c'est l'un des effets de la réunification allemande. Les logements de l'Est ont été acquis dans les années suivant la réunification par de riches propriétaires de l'Ouest. Des investissements qui ont été favorisés par des incitations fiscales et dans lesquels tout le monde à l'époque a trouvé son compte. Parce qu'il fallait l'argent de l'Ouest pour rénover les villes de l'Est, rappelle l'auteur de l'article. Résultat, aujourd'hui, ces villes ont bel et bien été remises à neuf, mais avec une autre conséquence. Une majorité des bailleurs privés sont des Allemands des Länder de l'Ouest. À Dresde, ce chiffre atteint ainsi 60%. Une situation qui suscite aujourd'hui la grogne des habitants des Länder de l'Est, constate l'auteur de l'article, qui est elle-même locataire à Leipzig. 30 ans après la réunification, les rancœurs demeurent.
Merci Virginie. Ces récits et bien d'autres sont à découvrir cette semaine dans le numéro de Courrier International, Silence, on tue.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité.
Sit back, relax, and close your eyes.
C'est vendredi et l'heure de notre rendez-vous avec Vincent Teval pour la musique. Bonjour.
Bonjour Léa-Lisa.
Vous nous parlez aujourd'hui du dernier album de Stefan Escher.
Eh oui, Homeless Song, le très attendu nouvel album de Stefan Escher. C'est le deuxième disque en quelques mois seulement pour l'auteur-compositeur suisse qu'un conflit avec son label et quelques problèmes de santé ont tenu éloigné du devant de la scène pendant 6 ans. Le Suisse avait donc publié en février le très étonnant Hu, où il revisitait son répertoire à la sauce des Balkans avec un ensemble de 12 jeunes musiciens, le Tractor Orchestra, qui mettait un tigre dans le moteur de ses chansons. Homeless Songs joue aujourd'hui sur un tout autre registre, celui de la douceur et de la mélancolie, avec des orchestrations superbes et des textes qui oscillent entre le suisse-allemand, l'anglais et le français, toujours avec la complicité de l'écrivain Philippe Djian.
T'as de l'eau dans les veines, t'as des pensées trop saines. D'être un vieil homme maladroit, que la solitude faudroie, que tous mes amis me lâchent, que chaque pièce soit à sa place, que nos jours nous soient comptés, que nos fêtes soient annulées, de ne plus trouver ta trace, de maudire le temps qui passe, de ne plus savoir ton nom, de n'avoir plus d'horizon, je n'attendrai, n'attendrai que la mémoire te revienne, que tu ne sois plus la mienne, qu'on soit dans l'obscurité, que nos forces nous aient quittés, que la justice intervienne, qu'on soit démis de nos chaînes, que le ciel vire au lilas. Et que tu te lasses de moi, je n'attendrai, n'attendrai.
Je n'attendrai pas, extrait du nouvel album de Stefan Escher.
Ah oui, un disque sur lequel il y a beaucoup de chansons très courtes, ce qui est un beau prétexte pour en écouter une deuxième, en suisse-allemand cette fois.
Et des camoufles sont gang, abgangne de son, t'slaban ist rot. Für so's gar, gib mir wenigstens Tang. Aber gang nicht so, für so's gar wie der Geist, sind wir zu lang beieinander. Gang nicht so, gang nicht so, das Leben ist zu kurz. Für so's gar, das Kapitel vorbei, aber gang nicht so, wir sind schon zu alt. Für so's gehen, ich weiss, das wär's g'si, aber gang nicht so, sag mir tschau, wenn ne Freund, oder blieb noch ein chli.
Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Pour nous écouter, nous retrouver, rendez-vous sur RFI.fr. Bon week-end, à lundi.
Für so's gehen, gang ne fin si g'si, aber gang nicht so, mir heisst's gehen. Für so's gehen, gang ein finzig so weit, aber gang nicht so, wie der gehen muss, so gang, aber gang nicht so.